Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver une nouvelle fois sur l'antenne d'RCFM pour un nouveau numéro de l'émission Sobre à Logo. Aujourd'hui, nous allons, durant quasiment une heure, entrecoupée de musique, évoquer le parcours de quelqu'un que vous connaissez, que vous avez entendu sur l'antenne, que vous entendez régulièrement aussi. Il s'agit de Jean-Raphaël Chervogne, que je salue. Jean-Raphaël, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, on va évoquer, parce qu'on vous connaît en tant qu'homme de radio, journaliste, historien, etc. Pas mal de casquettes pour vous, mais peut-être qu'on va essayer de vous découvrir un petit peu plus, non pas dans l'intimité, mais dans le cadre de votre parcours, et on profite de votre présence car vous sortez, il est sorti il y a quelques jours de cela, de fabuleuses chroniques de la Corse ancienne, c'est aux éditions Clémentine. On en parlera dans une troisième partie de l'émission, mais en filigrane bien sûr on évoquera aussi ce travail, parce que ce travail est, comment dire, en relation avec votre métier, avec votre passion pour l'histoire, votre passion pour les archives, pour la Corse en général. Mais si on part du début, Jean-Raphaël, si je vous demande où sont vos origines, enfin vos origines, comme on dit, avec un paese, quoi les souviens?
Douille, paese.
Ah, comme pas mal de gens.
Hein. Oui. Ouais. Au Brim, il y a une des zones, des Bastilles, qui passe au qui Bastille à Dandou.
Il y a
un paese. Bon, il y a simple un paese, bon, pas zone, mais il y a simple un paese. Et là, il y a Gastiva, la capitale de l'antique Pieve di Gaccia, hein, qui est un village historique à plus d'un titre. C'est d'ailleurs pour ça que m'est venue cette passion pour l'histoire.
On va l'évoquer. Cette enfance, donc, vous naissez à Bastia. Vous avez passé votre première jeunesse, je dirais, à Bastia
Alors,
pas
très peu de temps, malheureusement, puisque, suivant évidemment mon père qui est nommé sur le continent, et je pars dans l'Est. Et évidemment, quand je suis là-bas, j'ai qu'une pensée, c'est de rentrer au plus tôt. Bon, mais ça m'a pris quelques années, mais j'ai pu quand même revenir, parce que bon, même si on fait miroiter à beaucoup de... surtout à l'époque, hein, que bon, on était bien dehors, qu'il fallait partir, revenir. Quand on revient, on est content de revenir.
Quel était le rapport que vous aviez avec la Corse durant cette jeunesse, à travers même vos parents? J'imagine qu'il y avait des fréquences de retour pour les vacances, bien sûr.
C'est un préguit.
Mais sinon, est-ce que la Corse était présente au quotidien?
Énormément. Ayant la chance d'avoir deux parents corse, donc du même village... Il est sûr que j'ai toujours baigné dans ce bain corse, bon, les traditions, la langue, etc. Et puis, bon, vous l'avez dit, Jean-Charles, le retour fréquent, de plus en plus fréquent même. Et puis les liens avec la famille qui était restée ici, bon, ça
l'a... Du côté de vos parents, on insistait justement pour qu'il y ait cet ancrage.
Oui,
et
très fort, oui.
Que vous ne soyez pas déraciné totalement.
Ouais. Au niveau de, par exemple, des dialogues qu'on avait très fréquemment avec mon père, c'était toujours la vie au village quand il était jeune, la vie en Corse avant, etc. Donc, ce qui fait que je peux dire que j'ai été élevé une continente, mais j'étais vraiment...
J'avais beaucoup de gens,
un pied, j'avais un pied en Corse et même un pied et demi. Hein, parce que
et pour vos parents, c'était pas trop dur, entre guillemets, cet exil?
Bah, je pense qu'ils ont été contraints de partir comme beaucoup. Et bon, après l'exil, il est vécu... Comme on le vit, c'est-à-dire que bon, on essaie justement de se parer un petit peu contre les désagréments qu'il y a d'être si loin, parce que bon, les gens qui habitent les Corses de Marseille ou de Toulon ou de Nice, Piano Ouaté,
Mais vous, parce que quand vous dites l'Est, c'était où précisément?
Ah, c'était à 80 km de Paris, donc moi j'appelle ça l'Est, mais
Gérard. Moi je pensais que c'était limite à la frontière.
Plus exactement, au Boussoudi, Château-Thierry, la ville du fabuliste Jean Lafontaine.
Ah, bien sûr.
Donc, mais bon, pour moi, dire au bol nord, hein, je vous l'ai dit.
Alors, école primaire, collège, etc., collège, toute cette période-là, elle s'est faite là-bas.
Voilà, bon, ensuite la fac. Bon, je commençais à tâter de la publicité, du journalisme et tout. Bon, ça m'a donné goût, évidemment, à la chose. Et puis, après, j'ai vu qu'on pouvait faire le lien entre les deux domaines, avec ma passion pour l'histoire, donc qui a été éveillée très vite, je pense, oui, parce que nous avions la chance d'être dans un village où il y avait beaucoup de traces du passé, que mon père lui-même, féru d'histoire, a été mon premier prof. Hein, et ensuite, bon, ben, on cherche à savoir un petit peu qui on est par rapport à ce qui s'est passé dans son village et dans sa ville, parce que Bastia aussi, bon, c'est tellement riche que...
Vous avez écrit sur Bastia, hein?
Il y a tellement à écrire, oui, on n'en a pas fini.
J'imagine bien, mais vous avez pris un petit peu la suite d'anciens chroniqueurs. Et, c'était en quelle année vous aviez écrit dans les rues de Bastia, où justement vous nommiez les rues, vous expliquiez pourquoi, quel était le personnage qui avait donné son nom?
Ça remonte à 1988, la première mouture. donc c'est pas d'hier.
C'était pas votre premier livre ou c'était l'un des premiers peut-être ?
C'était le deuxième ou le troisième, oui. Donc avant, j'avais fait commis quelques petits opuscules, notamment sur l'histoire du village, voilà, et sur l'histoire du couvent de Catch, qui est le fleuron du patrimoine du village de Casteva.
Et pour lequel vous êtes beaucoup investi, on en parlera.
Oui, c'est investi, mais bon, c'est un lien, je pense, entre les deux.
Alors, pour rester un petit peu dans le cadre de l'enfance, votre papa donc a contribué, si je reprends vos propos, à éveiller cette passion pour l'histoire. C'était l'histoire avec un grand H, c'est-à-dire l'histoire universelle, ou c'était plutôt axé sur l'histoire de France, l'histoire de la Corse, l'histoire européenne?
Non, c'était... Honnêtement, l'histoire universelle, mais évidemment, après, à chaque fois, on en revenait obligatoirement à l'histoire de Corse. Parce que je pense que tous les Corses, obligatoirement, ils ont une grande histoire qui est l'histoire du monde, incontournablement. Puis après, il y a leur histoire à eux qui est liée à l'histoire de leur île. Et puis après, dans un dernier temps, à l'histoire de leur village.
C'est peut-être pour ça que vous avez aussi écrit sur la Première Guerre mondiale. Parce que dans les mémoires, pour la génération de vos parents, c'est quelque chose qui a forcément, non pas marqué, mais qui a... qui devait hanter les esprits.
Hein. Absolument. Ayant eu la chance de connaître... Trop peu, malheureusement, mes deux grands-pères qui avaient fait 14-18. Bon, je les ai perdus assez jeunes, mais j'ai gardé une trace de gens quand ils parlaient très peu de cette période, comme s'ils voulaient, en quelque sorte, exorciser un petit peu ces moments d'horreur. Bon, et c'est vrai que ça m'a donné un petit peu envie d'en savoir plus.
Et comment ça se passait? Vous les interrogiez?
Quand ils discutent, Trababon et Fiouli,
Alors, mais vous étiez déjà dans un état d'esprit d'engranger des témoignages, voilà.
Engranger des témoignages, peut-être pas à 13 ans, mais Tichirka Sabé, bon, tout, bah, bon, il va tout, si on date à Verdun, si on date. Et oui, bon, faut aller longtemps. Bon.
Une espèce de, comment voilà. dire
De pudeur à en de parler. Pudeur, voilà, ouais. De pudeur à en parler, parce que bon, il leur semblait qu'ils avaient fait rien d'extraordinaire. Hein. Alors que certaines fois, bon, pour certains, c'est vrai qu'ils ne sont pas partis la fleur au fusil comme. Et là, ça m'avait frappé beaucoup de fois. J'ai eu l'occasion après d'entendre d'autres témoignages. Quand on entend les jeunes Corses qui partent enthousiastes et tout, la réalité est bien différente. Parce que ça n'a pas été des départs joyeux.
Alors, ces études d'histoire, elles se sont faites également sur Paris
dans une faculté par téléenseignement à Besançon, qui est vieille ville espagnole, qui n'a rien de Corse. Mais voilà, bon, je sais pas, c'est... ma licence d'histoire là-bas. Et puis ensuite, comme je voulais embrasser la carrière de journaliste, mais c'est un métier, vous le savez mieux que moi, qui est particulièrement saturé.
Oui, voilà. Qu'il a encore, mais voilà.
Oui, bien sûr.
On ne va pas décourager les jeunes qui nous écoutent, il y a toujours possibilité, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est assez embouteillé. Oui.
Non, surtout que mon souhait était toujours de rentrer en Corse, donc... J'aurais pu trouver, évidemment, j'avais fait un stage au Courrier Picard, encore quasiment là au Cercle Polaire, etc. Mais ça ne m'avait pas enthousiasmé. Donc, je pensais que... Et puis après, par un concours de circonstances, à vrai dire, je suis rentré dans l'enseignement et j'ai vu qu'on pouvait faire les deux choses à la fois.
Puli dulidetti o campanile di Santa Maria scrive lo gelo e l'architetto di l'universo a poesia
Begu Vigaglione San Gisè e Viripine e Sant'Antone un maestroso quando c'è Asciumaianca di mio canzone
In Sanigurale giovanotte Spazzano l'uso le ligorri Trianguleiano e biciclette Rieni veci ali giucci noi
O portue chiusente o caffè Musca o pescio e l'acqua vida Tanti vatteli con so per me Gira lo cavo e gira la vita
Bastia canta per le cantine Rocche e pagliele operansemme Vecchia colombo di canterini Mezza le vole di dobugena
Girandule gli uppe a mio città vivonde strette e pole piazze, cerco a roba da cantà, in cui rime un po' gubazze.
Bastian zerga pelighe rugi, intro da lui or nella notte, anco i silenzi diventano mugi, bastia rise, bastia lotte, bastia scemma, bastia rie, a tutte l'ore, notte e giorno, se tu sei tristo, ti cerca l'ide, bastia piagne e riedorna.
Uenta puli duridetti, u campanile di Santa Maria, scrive Ruggero e l'architetto di l'universo a poesia.
Raphaël Chervon, vous êtes notre invité donc Sobralogue sur l'antenne d'RCFM. Vous aviez, étant étudiant, une période un petit peu de prédilection. Vous étiez plutôt intéressé, je ne sais pas moi, par l'Antiquité, le Moyen-Âge, les temps modernes.
Et la période contemporaine. La période contemporaine parce que...
Ce qu'il faut rajouter, voilà, la Corse vivait des bouleversements aussi. Hein.
Bien sûr.
On est dans les années 60, 70.
70, hein. 75, oui. C'est vrai que...
Ça a influencé ça quelque part.
Ah, énormément, oui. Énormément. Dans beaucoup de domaines et... On s'aperçoit quand même que bon, c'est la fameuse époque du réacquiste. Donc, on avait des contacts avec des Corses de Paris qui aussi travaillaient dans leur domaine, bien, qu'on a retrouvé après avec plaisir ici en Corse. Hein. Donc, ce sont des gens qui semblaient, chacun dans leur domaine, en passe de faire quelque chose pour que la Corse renaisse au sens propre. Bon, et donc, forcément, cette période n'est pas innocent. Ça donne beaucoup, encore plus de goût, encore plus d'appétence à la recherche du passé, qui explique la situation dans laquelle on était.
Justement, l'état d'esprit au début du, on va dire, bon, pour schématiser, hein, on va dire le réacquiste, l'état d'esprit des Corses que vous fréquentiez à l'époque, il y avait cette... ce doux rêve ou cette farouche envie de rentrer au pays, de construire quelque chose.
Énormément, énormément. Parce que, ne serait-ce que dans le milieu enseignant, bon, on avait... Bon, je fréquente... j'ai jamais fréquenté énormément les enseignants par passion, mais il se trouve qu'on avait décidé de monter, pour essayer de rentrer en Corse, un syndicat d'enseignants corse. Bon, qui avait eu un franc succès, on était quelques-uns. On avait écrit, en ce sens, en demandant des dispositions spéciales, bon... Après, ce syndicat a été absorbé par un autre grand syndicat, avec plaisir d'ailleurs, mais on a dû compter que sur nous pour rentrer, c'est-à-dire continuer à faire des dossiers classiques.
Combien de temps entre la première demande de mutation et la mutation effective? Parce qu'à l'époque, c'était plus compliqué que maintenant, j'ai l'impression.
Moi, j'ai attendu quand même 7 ou 8 ans, oui. Donc, mais bon, c'est vrai qu'il y a tellement d'arcanes éducation nationale, un truc très simple, hein. Donc, trop simple.
Donc, oui, c'est un mammouth,
d'ailleurs. Il faut compliquer un peu. Il faut compliquer les choses, les situations les plus simples.
Et vous vous souvenez, Jean-Raphaël Chervon, de votre première affectation ici encore, de votre retour? C'est bien présent dans votre esprit. Ça y est, ouais, son doué, mais...
Oui, d'autant plus que, bon, Sobastiach, j'ai dû rentrer par Ajaccio. Donc, dans mes rêves, mon retour en Corse, c'était passé au Gabigours, à Gidadé. Bon, et puis pour des raisons...
Vous avez la salle d'Ajaccio, la citadelle.
Oui, Michaelistès. Et pour des raisons, on va dire, d'horaire, bon, je suis débarqué à Ajaccio. Bon, c'est un détail. Mais c'est vrai que... Bon, j'aurais même débarqué à Monivage.
L'essentiel, c'était de rentrer.
Voilà, c'était de rentrer.
On est aussi dans une période, et au fur et à mesure que l'on avance dans votre parcours... Alors, vous étiez peut-être déjà encore sur le continent, c'est cette fameuse épopée bastiaise, le foot. Vous avez également écrit un livre, proposé un livre l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus.
Il y a même plus, oui.
Ou trois ans,
oui, ça
le temps passe.
Ouais.
Ça aussi, c'est quelque chose qui vous a marqué au fer rouge, parce que vous avez de l'histoire, votre passion pour le foot, on va dire la corsitude qui se met également au milieu de tous ces raisonnements-là. Vous étiez sur le continent, et cette épopée, vous l'avez vécue aussi.
Oui, c'est un ensemble. Je pense que, bon, à l'époque, le Sporting était un formidable vecteur.
Identitaire.
Identitaire, il faut le dire. Hein. Et tous les, bon, à chaque fois que le Sporting allait quelque part, bon, il y avait un club de supporters à Paris, des déplacements, etc. Et ensuite, les popes européennes, ça a été l'occasion de faire connaître la Corse, pas seulement Bastia, mais la Corse, dans ce qu'elle a de meilleur. Et par conséquent, automatiquement, ça rejoignait à la fois le monde du sport, mais le monde du sport, par bien des moments, il rejoint l'histoire contemporaine. Bon, et puis, bon, par goût, parce que je jouais au foot aussi, et là aussi, je me suis aperçu quelquefois de la différence de traitement entre quand on savait que j'étais corse sur un terrain et le regard n'était plus le même.
Et vous-même, comment vous étiez sur un terrain plutôt
c'est-à-dire
chaud
que, oui, parce que bon.
Dans la moyenne.
Il fallait faire honneur à sa réputation. Mais non, je n'ai jamais cassé la jambe à personne. Mais c'est vrai qu'on était un peu plus virulent que peut-être. Parce qu'en plus, on s'inspirait d'exemples des grands anciens. Quand on a vu jouer des garçons comme Vincenti ou Gandolfi, des noms qui ne disent
plus rien. Voilà, les Popiers Bastia, bien sûr.
Qui ne disent rien aux jeunes d'aujourd'hui, mais qui étaient des clients. Ça, c'était des défenseurs qui. N'avaient qu'un souci, c'est que.
Je sais pas s'ils pourraient jouer encore maintenant. Enfin, du moins, avec leur façon de jouer à l'époque.
Je pense que.
La multiplication des caméras.
Vite, oui, ils sortiraient très vite. Non, mais c'était un engagement physique qui n'avait rien de méchant. Mais
c'était simplement. C'était un engagement.
Comment? Mais donc. Et c'est vrai que, bon. À travers le foot, à travers le sporting, à travers l'épopée européenne, le regard sur les Corses changeait.
Et vous, à travers cette épopée aussi, vous avez, comme d'autres, j'imagine, construit votre identité aussi. Hein. Ça correspond aussi des 77-78. On est vraiment dans le bouillonnement de ces années du réacquiste. Hein.
Et ça, c'est un peu la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que, bon, il y a eu à lire, évidemment, 75, là, c'est un événement incontournable. Tout le monde en parle encore aujourd'hui, bien entendu. Il y a eu ces nuits d'émeute à Bastia. Qui vous, surtout quand on est assez jeune, qui vous marque, vous vous demandez pourquoi tout d'un coup il y a ce déchaînement de violence contre des hommes qui ne demandent rien d'autre que la justice ou que le respect, quoi. Et donc, bon, sans penser à devenir violent soi-même, on ne peut quand même que se poser des questions et s'interroger sur d'où vient la première violence.
Vous êtes aujourd'hui à la retraite de l'enseignement. Quand vous faites un petit bilan de ce à quoi vous aspiriez pour votre retour en Corse et aujourd'hui avec un peu plus d'expérience, quel regard vous portez sur ce parcours-là et puis même sur la Corse? Est-ce que c'est aujourd'hui la Corse que vous aviez rêvé, pour laquelle vous êtes investi avec d'autres, bien sûr?
Le parcours personnel, bon, satisfaisant à mesure où oui, j'ai pas.
Mais la Corse.
Mais la Corse en elle-même, bon, c'est vrai qu'on l'a vu évoluer, je l'ai vu évoluer depuis 83, et puis jusqu'à des grandes heures qu'on a vécues récemment, il y a une évolution sensible, et c'est celle à laquelle j'aspirais, et pour laquelle, modestement, j'ai œuvré avec d'autres. Hein. Donc, finalement, au du compte, on se dit que c'est vrai qu'on a connu des moments particulièrement difficiles, qu'on a même été particulièrement découragé certaines fois, et puis qu'au bout du compte, eh ben, on arrive peut-être à quelque chose. Alors maintenant, évidemment, l'avenir nous dira s'il y a encore des combats à mener. Je pense que oui, parce que tout, malheureusement, ne va pas se faire par un coup de baguette magique. Mais au moins, on est dans une. On va dire, on commence à voir le bout du tunnel.
Quand vous raisonnez, quand vous réfléchissez sur les situations actuelles, on parle toujours de la Corse, hein, j'imagine que. Vous vous servez aussi de votre savoir en tant qu'historien. Alors, je ne sais pas, cette période entre le réacquiste et aujourd'hui, si on devait comment vous l'analysez, vous, en tant qu'historien, ces 40, 50 ans, par rapport à l'histoire de notre île?
C'est une montée en puissance d'un sentiment qu'on croyait complètement dilué, hein, dans une unité un peu hypothétique, parce que les nations, même si elles sont sans État, comme on le dit aujourd'hui, sont des nations malgré tout. Donc il y a eu un cheminement. De 75, évidemment, ça c'est la date un petit peu, on va dire, fondatrice, jusqu'à aujourd'hui. Cheminement marqué de drames, malheureusement, mais aussi de grands moments. Et bon, c'est peut-être comme ça, c'est peut-être le prix à payer, justement, dans l'histoire des hommes, dans l'histoire des mouvements politiques, même des mouvements politiques au sens large. Je ne parle pas des partis, mais dans l'évolution politique d'un pays, je pense que toutes les nations doivent faire face à des moments forts, des moments de tension. Et ça, quand on est historien, évidemment, le parallèle, on peut le faire plus facilement, peut-être, que les gens qui ne s'intéressent pas à l'histoire. On peut comparer avec d'autres pays, d'autres nations sans État. et voir que on est, la Corse n'est, bon, se trouve à présent dans le vent de l'histoire.
On s'inscrit un peu dans un fil.
Ouais. Voilà, on s'inscrit dans un fil conducteur avec la Catalogne, avec l'Écosse, etc. Même si évidemment aucun pays ne peut se comparer à un autre. Hein. Il y a des chiffres qui parlent, les démographies, la population, l'économie, etc. Mais enfin, on est dans le droit fil.
Jean-Raphaël Chervon, vous êtes notre invité dans Sobre à l'Aube sur l'antenne d'RCFM. On a pas mal discuté déjà jusqu'à présent. On n'a pas parlé des archives, de la généalogie. Alors pour moi, ça semble être un monde un petit peu plein de poussière. Qu'est-ce qui vous attire là-dedans?
Pas la poussière, déjà.
Mais j'imagine bien. Ouais.
Non, mais c'est parce qu'on.
C'est l'histoire. Hein.
C'est parce qu'on a la trace. Quelqu'un qui veut connaître l'histoire ouvre un livre d'histoire. L'historien qui veut l'écrire. Comme il n'y a plus personne ou presque pour lui raconter, il se tourne vers les témoins. Alors, les seuls témoins, si c'est l'Antiquité, il faut regarder les stèles de pierre. Si c'est des périodes plus récentes, entre guillemets, hein, en termes d'histoire, on va dans les archives et on fouille dans les archives. Quelqu'un qui s'intéresse à la période de Paoli se délectera de lire, découvrir, de feuilleter le fonds Paoli, qui regroupe les correspondances, les actes officiels, les édits, etc. Si on s'intéresse, je sais pas, un exemple très simple à la maison Mattei, qui a laissé des archives impressionnantes, on peut retracer l'histoire de la maison Mattei grâce à ces archives. Celui qui s'intéresse à la marine ira dans les archives de la marine et verra des tonnes et des tonnes de documents intéressants, région de Corse par région de Corse, ou alors quelqu'un qui s'intéresse, comme on vient de le dire, au Sporting, ira fouiller dans le mythique 48J, qui est connu de tous les amateurs, qui est un don merveilleux qu'avait fait un archiviste qui a été lui-même un ancien joueur, Antoine Bernac, et qui a laissé donc tout le cheminement du Sporting, aussi bien les anciennes licences que les cahiers de compte rendu, de conseil d'administration, du courrier, etc. Et toute la somme d'autres documents inhérents à un club de foot.
Pronta irá o mundo e o viado.
Alors, Jean-Raphaël Chavonne, j'aimerais avoir votre regard en tant qu'historien sur l'état de conservation de la mémoire en général. Je parle aujourd'hui. Est-ce que, je vois, par exemple, nous à la radio, très sincèrement, je vais dire, on n'est pas non plus à citer en exemple pour la conservation de la mémoire. La télévision non plus, il n'y a pas d'entité, de structure chargée de regrouper à la fois la mémoire visuelle, radiophonique. Au niveau des archives, est-ce que la Corse a réussi ou sait bien conserver sa mémoire ?
Alors, au niveau archives papier, on va dire. Je pense qu'il y a eu un très gros effort de fait avec le beau bâtiment. Tout est toujours perfectible, bien sûr, mais il y a eu quand même un gros effort de fait. Quand on pense où étaient situées autrefois les archives dans une espèce d'idurline dans laquelle on avait du mal à se retourner. Bon, là, il y a un beau bâtiment maintenant et les archives sont en sûreté surtout, parce que l'important, c'est pas de les conserver, c'est de les conserver en bon état. Bon, et évidemment, le temps, les parasites, etc. peuvent attaquer ces documents. Donc, en ce sens-là, au plan matériel, c'est bien conservé. Maintenant, il est bien dommage que ces archives soient particulièrement incomplètes. Et quand on sait par expérience...
Incomplète, c'est-à-dire qu'il y a une grande partie qui est encore à l'étranger, en Italie, etc.
Bon, alors, il y a une grande partie qui est au fond de l'eau, au large de Malte. Ça, ce sont les archives que, lors du royaume anglo-corse, les Anglais avaient transportées, et qui ont malheureusement été coulées, et qui reposent... celles-là sont détruites à tout jamais. Ensuite, il y a des archives qu'on pourrait peut-être, entre guillemets, plus facilement récupérer, qui sont ces archives que détiennent des particuliers, et les détiennent indûment. Bon, on connaît dans tous les villages des gens qui se piquant d'histoire ou dont la famille se piquait elle-même d'histoire, sans vergogne, ont conservé des documents qui doivent être normalement aux archives. Bon, leur faire, entre guillemets, rendre gorge, c'est pas le rôle de l'historien, hein, on n'est pas là pour faire la police.
Mais du moins les inciter peut-être
mais les inciter, voilà, alors, l'incitation,
à ouvrir, à partager.
Alors, certaines incitations au partage, oui, sont bien reçues. Pour d'autres, on a l'impression que c'est des documents personnels parce qu'ils tiennent de famille.
Or, un esprit de gardien du temple, quelque part, même pas.
Oh, je pense que c'est un esprit de propriété, surtout. Alors, c'est vrai que quelquefois, on a un vieux document qui est dans la famille depuis très longtemps, donc il fait presque partie de la famille. Mais si c'est un registre de notaire, par exemple, un notaire, c'est un officier public, il doit être aux archives, et pas dans la famille.
D'accord.
Alors, on peut comprendre au plan humain que les personnes soient affectées, si elles rendent... Mais d'un autre côté, aux archives départementales...
Il y a ce qu'on appelle un fond de... On peut nommer le fond de quelqu'un.
Tout à fait, bien sûr.
Voilà.
Vous donnez les documents que vous déposez.
Il y en a beaucoup dans la nature, alors, actuellement.
Il y a malheureusement encore beaucoup trop de documents qui sont à droite, à gauche. Je pense à des registres paroissiaux, qui sont dans des familles liées à un prêtre à un moment de l'histoire du village, et qui se sont fait une espèce de devoir de conserver, alors que ça doit être normalement dans les églises et le double.
Donc pour répondre à la question, je rappelle, quelque part, on n'est pas très performant en matière de conservation de mémoire.
Disons qu'il y a encore,
il y a
encore à faire. Mais beaucoup a été fait, malgré tout. Il ne faut pas être...
Alors, la mémoire, on va y venir tout de suite avec cette dernière partie concernant notre émission Sabre à l'aube. Je rappelle, nos amis auditeurs, que Jean-Raphaël Chavonne est notre invité. Vous signez, enfin, vous présentez ces chroniques de la Corse ancienne. Alors, question toute simple et toute bête au départ. L'origine de ce projet, ce sont des chroniques qui avaient déjà été publiées.
Voilà, ce sont des chroniques qui ont été publiées dans Le Petit Bastier, de manière auquel je collabore. Et c'est l'éditeur lui-même, l'éditeur de la Maison Clémentine, M. Baestrière,
qui... Nouvelle maison d'édition qui a 4-5 qui fait un joli travail.
Des livres d'art surtout, et qui a été, semble-t-il, intéressé par la preuve, par ces chroniques.
Les avez proposées, c'est eux qui vous ont contacté.
C'est l'éditeur qui est venu vers moi. Donc, ce qui est toujours intéressant, parce que c'est le signe que le travail qu'on fait est reconnu au moins par quelqu'un.
Oui, on sait que ça n'a pas mes candela, quoi.
Et donc, j'ai dit oui, avec l'accord évidemment de la direction du Petit Bastier. Et puis voilà, on a ce livre de chroniques. 88 chroniques.
Ben justement, c'est le chiffre que j'allais donner, 88 chroniques, mais alors divisé en 8 thèmes, et pour chaque thème, il y a 11 chroniques.
Voilà.
Vous aimez bien les chiffres? Je sais pas, non, mais est-ce un hasard ou ça a été voulu de...
Ah non,
de...
mais c'est pour essayer qu'il y ait quand même une certaine régularité. Parce que le principe, c'est qu'on peut piocher une chronique, une autre, on n'est pas obligé d'y aller.
Oui, on n'est pas obligé de prendre le livre gratuit, hein. Du début à... on peut, en fait, l'ouvrir de temps en temps.
Voilà. Chapitiga.
Bergi, Chapitiga, toutes ces chtori gusti. Alors, issu, vous le disiez, de chroniques qui ont été d'abord publiées dans le Petit Bastier. 88 chroniques. Le choix, c'était un choix de 88 parmi combien, déjà, au départ?
Depuis que j'écris, j'ai dû écrire à peu près 400 chroniques, à peu près.
Comment on fait le choix? Comment cette théorie de l'entonnoir? On part large pour resserrer à la fin. Comment vous l'avez mené?
Comme j'ai choisi de travailler par thème, j'ai essayé de voir dans les thèmes ceux qui étaient les plus porteurs. Ensuite, essayer de faire un peu la diversité, parce que bon, comme quand on s'adresse à des lecteurs, on essaye que... Pas, on ne peut pas écrire pour tous les lecteurs, mais qu'il y ait au moins quelques villages différents.
Oui, au niveau de la répartition, j'allais vous le dire... Oui, vous couvrez assez bien le territoire. Hein.
Sans aller non plus faire une... Parce que sinon, ça serait un autre ouvrage.
Hein. Ce n'est qu'un tome 1 aussi, peut-être qu'il y en aura d'autres. Hein.
C'est le public qui en décidera. Mais bon, après, évidemment, on est obligé de tomber sur des, entre guillemets, lieux communs. Mais ce n'est pas du tout péjoratif. C'est-à-dire que bon, le thème de la mer...
Pour une île.
C'est Gargantum, quoi. Oumar est... Bon, donc après, il y a, bon, y a des naufrages, mais il y a aussi des événements qui ont rapport à la mer, etc. Bon, ensuite, il y a des thèmes assez, on va dire, fédérateurs. Bon, sur le rôle des femmes en Corse, c'est pour ça que j'ai intitulé le chapitre « Ce sexe qu'on dit faible », parce qu'en réalité, on s'aperçoit
qu'il n'est pas si faible que ça, mais quand même de là, et heureusement.
Donégour, c'est... Bon, c'est Pierre Rose, hein.
Et alors, ces histoires, ces chroniques, comment vous les avez construites, non? Comment vous les avez trouvées? C'est de par vos recherches, c'est du travail de terrain d'enquête aussi?
C'est un peu tout, oui, c'est vrai. Bon, principalement, évidemment, la lecture de la presse, du passé. Et comme on a la chance d'avoir des journaux qui remontent jusqu'au XVIIIe siècle, on peut trouver des choses amusantes. Et après, évidemment, après, il y a un travail de journaliste, je dirais, de recouper, de voir un peu, d'essayer d'être le plus objectif possible. Sauf quand il s'agit, par exemple, d'histoires qui sont des traditions orales.
Oui, ou légendaires aussi.
Voilà, des légendes, tout à fait. Oui, alors là, on se laisse emporter par, je dirais, par la légende.
J'aimais bien, d'ailleurs, parce que lorsqu'on lit votre style, c'est assez romancé, c'est narratif, il y a un ton de conteur. Bon, je vais quand même le dire, parce que la maison d'édition vous compare à un célèbre chroniqueur continental, Pierre Bellemare, pour ne pas le citer.
Non, mais je pense que... Vous êtes quand même là.
Non, mais à la lecture, en fait, on a l'impression plus de vous entendre que de vous lire.
Oui, mais au départ, c'est vrai que l'histoire, quand on la raconte, il faut la raconter. Moi, les profs d'histoire qui font des cours grand 1, grand 2, ça m'a toujours semblé curieux.
Là, c'est pas le cas, en tout cas.
Alors que
là, c'est vraiment narratif.
Il faut partir, voilà, il faut raconter les petites histoires qui font la grande histoire.
Avec de l'humour aussi.
Ah ben oui, parce que
non, mais souvent,
il y a des choses qui sont...
C'est très agréable à lire, c'est pour ça, voilà.
Et merci.
Non, mais c'est très
mais
sincèrement.
C'est vrai qu'il y a tellement de choses bizarres, insolites, mystérieuses, et il y a toujours à chaque fois... On n'est pas loin de l'Italie, du néo-réalisme. Hein, très souvent, le rire côtoie les larmes, etc. Le drame côtoie le... Et c'est un peu ce qu'on retrouve, c'est vrai, dans ces chroniques. Bon, après, il y a des chroniques tout à fait de tradition orale. Bon, là, il est difficile quand on parle des barbares qui sont venus. Bon, il y a une tradition... Alors après, il est recoupé par... on recherche dans des vieux historiens pour savoir s'ils en ont parlé. Quelquefois, ils en ont parlé, mais ils en ont parlé eux-mêmes. En ayant entendu cette histoire.
Bien sûr, oui.
Et puis beaucoup de... quelques histoires, je me suis permis de mettre des Stalbadoï qu'on entendait à Ueg quand on était gamin.
Non, ce qui est intéressant, alors, sans vouloir comparer au travail qui a été fait par d'autres avant, c'est que souvent on dit des gens, oui, plus ou moins on en connaît. Alors là, sincèrement, sur les 88, pour ceux qui s'y intéressent, ils vont peut-être en retrouver quelques-unes. Oh, mais il y en a beaucoup qui... Bon, moi j'ai découvert totalement, c'est ça qui est vraiment intéressant.
À l'intérêt, c'est quand même justement
de
la nouveauté.
Il y a autant de choses à dire. Puis, si vous dites 300 chroniques...
Oui, il y a encore de la marge. Bah, on n'a jamais fini. Vous prenez un simple journal de 1840, par exemple, le fameux Moniteur des communes, ou le journal de la Corse, même un peu plus avant, dans les années 1820, écrit à ce moment-là d'un côté en italien, de l'autre côté en français, et vous découvrez à chaque ligne un petit fait divers, une petite information. Et après, le rôle de l'historien, du journaliste, c'est d'aller recouper, rechercher des informations ailleurs. Par exemple, si vous tombez sur une arrestation, vous avez les archives qui vont vous indiquer, même décrire le personnage, grâce au registre d'écrou. Vous allez avoir une description même physique, son habillement, tout ça.
Ça vous sert après à
bien
raconter.
Bien sûr, ça sert on va dire même à dessiner le personnage, à voir un peu. Bon, on n'a pas de photos de certains bandits, par exemple.
C'est la force du récit et de l'écrit, c'est que à la lecture justement de vos chroniques, des images apparaissent dans l'esprit.
Oui, c'est un peu pour susciter ça, parce que bon, plus que de, je vais pas parler de bande dessinée parce que c'est un autre modèle, mais c'est vrai que quand on peut faire apparaître comme ça dans l'esprit des gens une image par deux ou trois mots, c'est bien.
Et puis, ce seraient des chroniques qui auraient, alors je lance un appel à direction, tout à fait leur place sur une antenne de radio, parce que ne fût-ce qu'en les lisant, c'est un monde qui s'ouvre. Hein.
Oui,
on est transporté.
C'est vrai qu'on les premières chroniques, entre guillemets, c'est celles que faisaient Inouchtrevit, Aouei, et quand elles racontaient des histoires qu'elles avaient entendues raconter par quelqu'un qu'elles avaient entendu raconter. Donc ça vient du fond des âges. Et il faisait rien d'autre que des émissions de radio dans un petit format dans Tavanto Garmin. Hein.
Sur les 88, la plus insolite pour vous aussi, c'est pas évident, hein, mais or la plus insolite ou la plus spectaculaire ou la moins connue ou celle qui vous a demandé le plus de travail, si vous deviez en fait en retenir une.
C'est bien délicat parce que c'est vrai que, bon, à 99%, elles m'ont toutes plu, sinon je ne les aurais pas choisies.
Bon, mais une qui devrait résumer, on va pas la lire, on n'aura pas le temps malheureusement. Mais
Je ne voudrais pas faire preuve de favoritisme, mais il y a un épisode à la fois insolite, curieux, tragicomique, parce qu'il y a une mort dedans. C'est quand même l'affaire de ces gens qui voulaient demander à un saint de passage dans le couvent de Catch de ressusciter leur sœur. Et bon, les Génois avaient envoyé Leonardo di Portamaurice comme... on va dire pacificateur, et lui il avait été très vite convaincu qu'il avait été envoyé pour d'autres fins plus bassement politiques. Donc son voyage s'est transformé. Et donc à un moment il arrive dans le village de Castiva, dans le couvent de Catch, et il est à peine installé qu'il y a deux frères du village voisin qui viennent lui demander de ressusciter leur sœur, qu'ils avaient tuée la veille, la suspectant d'adultère. Et le matin donc ils avaient appris que c'était faux. Donc, ils ont dit, oui, il y a un saint qui fait des miracles, on va lui demander de ressusciter.
On va tout...
Donc, on passe l'éponge, on recommence. Alors, moi, au-delà du fait que c'est dans un lieu que je connais particulièrement, mais ça m'a interpellé très vite. Je pense que là, il y a un peu tout. Il y a la violence.
La superstition.
La superstition, la foi importante, parce que penser qu'on faut vraiment la foi. La maltraitance des femmes...
Les mœurs, ouais, certaines mœurs. Ouais.
Le politique qui essaye de passer par des voies un peu souterraines, etc. Donc je pense que ça, c'est une chronique qui est absolument à multiples facettes.
Oui, la Bible qu'on pourrait alors pas mettre en perspective avec maintenant, parce que ça n'a plus rien à voir, mais souvent il y a des ponts, des liens entre le passé et même choses totalement contemporaines. Hein.
Bon, un épisode contemporain qui s'intitule « Il faut sauver le commandant Quéré ».
On parle d'un bateau.
Le bateau qui s'appelait le commandant Quéré. Et donc là, c'est pas en Corse, mais ça concerne la Corse. C'est la manifestation qui a mal tourné à Marseille, organisée par des associations corses, pour demander justement le maintien du paquebot sur les lignes de Corse. Et on s'aperçoit qu'il y a déjà à l'époque, 50 ans avant,
les problèmes de transport.
E ogni stagione ha da riuso viadu di montagne marine di macchioni sarradi che l'acqua d'intigne da trettiade d'urchine dal bori ricamadi e di bedre sanguigne. E qua fa la zorma di rinadi e di spighi, e qui in due rurme avvorza i lantighi, isola di memoria scondui a storia. Sina palmarela risplende in villezza da luna eterna stella ti passi vagabondi di infiarrate sulame di liceti scuri accurienti circondi crede fontane da posti sicuri e qua fa la sorma affiancata a mio e qui due rurme l'estrui bambini
Jegi, o silêncio dizia o lebilhão. Ta rigor di ribrima, come se l'era uà. Di lore cantarine, di siorni veligi, quando tu ribombava. Rise zidelline di fischi basturreschi di gente che ispirava, ma tu si fa la sorma, sia nostra risorsa. Un due urme, l'antica anima gursa.
Parmi vos recherches ou dans vos recherches, souvent, est-ce qu'il y a des histoires ou des légendes, pour résumer, on va dire communes à la fois à la Corse et à son environnement géographique, j'entends par là la Méditerranée, voire même d'autres. Est-ce qu'il y a des récits dans l'imaginaire populaire que l'on retrouve ici et ailleurs? Ça doit arriver.
Oui, mais assez rarement, parce qu'on est vraiment une île avec tout ce que ça comporte comme idée de repli sur soi. Et donc, plutôt que des légendes, il y a des traditions, oui, ou des. Je ne parle même pas de la langue, de certains mots qui viennent d'ailleurs, etc. Mais il y a des idées qu'on se fait, il y a des craintes même qui sont partagées, il y a des superstitions surtout, qui sont plus méditerranéennes. Mais dans l'ensemble, les histoires. Bon, certainement qu'on peut, évidemment, à chaque fois, si on cherchait bien, retrouver quelqu'un qui aurait vécu le même. Mais non, je n'ai pas le sentiment qu'on puisse retrouver. Je ne dis pas qu'on est exceptionnel, hein, mais dans notre genre, on est exceptionnel, oui.
Quelle est pour vous, alors, non pas en tant qu'historien, mais en tant que citoyen, l'importance de... Alors, ça, c'est à travers vos chroniques, mais si on va élargir par rapport à l'histoire, quelle est l'importance pour le citoyen de connaître son histoire pour gérer son quotidien et se projeter dans l'avenir? Ça paraît évident pour vous, mais
bien sûr, non, bien
c'est
sûr.
Intéressant de rappeler aussi.
Ben, je pense que pour savoir où on va... Il faut déjà savoir d'où on vient. Alors, savoir d'où on vient, ça demande quand même de savoir, effectivement, quel est notre vécu commun, quelle est notre histoire. Bon, ça explique beaucoup de mouvements. Sans entrer dans des considérations politiques, quand certaines personnes du continent s'étonnent qu'il y ait des mouvements nationalistes, c'est parce qu'ils ne savent pas que, pendant un certain temps, la Corse a été une nation, et qu'elle l'est toujours. Bon, on peut pas dire, même si on l'annexe, etc., on ne peut pas retirer ce phénomène. Alors, autant on le comprend, autant on l'accepte, on le sait pour l'Écosse, etc., bon, autant les gens de l'Hexagone ont du mal à se familiariser avec cette idée que, bon, on n'est pas un petit morceau de Corse comme ça, un petit morceau de France, pardon, qui est comme ça, à droite à gauche. D'ailleurs, très souvent, dans les cartes, on est n'importe où, hein, quand il y a les cartes de France.
On est plutôt baladé, oui.
Ouais, on est plutôt baladé. Donc, savoir d'où l'on vient grâce à l'étude de l'histoire, c'est important, parce que ça ouvre des portes. On se dit, bon, si ces gens raisonnent comme ça, s'ils font tel acte, s'ils se comportent comme ça, c'est qu'ils sont, ça leur est pas venu d'un matin en se levant, tiens, on va faire ça. Donc, s'ils sont les
héritiers, c'est le résultat de quelque chose.
C'est le résultat de quelque chose. Et en plus, la situation elle-même est le résultat de longues années. Pourquoi certaines personnes ont-elles été plus sensibles aux sirènes de Paris, par exemple, que d'autres, parce qu'elles y trouvaient un intérêt. Bon, et ça, c'est tout un contexte. Alors, heureusement, aujourd'hui, on étudie l'histoire de Corse en Corse, mais pendant très longtemps, il était assez surprenant de faire apprendre aux petits Corses une histoire qui occultait totalement la leur.
L'histoire, elle est toujours écrite de manière définitive ou elle est en perpétuelle évolution? Parce que il n'y a qu'à lire certains ouvrages, par exemple, même de l'histoire en général, pas forcément de l'histoire corse, mais de l'histoire corse, on est barlé, bon, tellement de choses ont été dites et écrites, et puis on s'aperçoit qu'il c'était quand même, il y avait une grosse différence avec la réalité, mais l'historien, il est dans le doute en permanence, hein, il s'interroge en permanence. Et quelles sont ses limites, également? Parce qu'il doit pas être partisan aussi, non, enfin, alors, de mon point de vue.
Il peut être partisan, mais
en dehors, bien sûr, de sa tâche. Ouais.
Mais dans ses travaux, je pense qu'il faut éviter, justement. Mais après, la subjectivité, elle n'existe pas. Parce qu'on écrira toujours d'une certaine façon, en fonction... Bon. Maintenant, l'histoire est en perpétuelle évolution, et ensuite, on découvre, pas tous les jours, j'exagère, mais on retrouve souvent des événements qui ont été cachés, qui ont été occultés, parce que les archives étaient sujettes pendant longtemps, sont toujours sujettes d'ailleurs pendant longtemps, à une espèce de fermeture. Hein. On ne peut pas consulter les archives avant une certaine date. Donc, lorsqu'on ouvre des archives, la date étant passée, on découvre des événements. Et c'est comme ça, à l'occasion, on a pu découvrir que certains hommes politiques français qu'on avait pu penser être des grands résistants étaient en fait que...
Jouaient un jeu de trouble,
pour ne pas dire autre chose. Oui. et voilà. Et ensuite, on apprend aussi que tel événement ne s'est pas passé, comme la bataille de Valmy, par exemple, qui a été érigée en espèce de monument l'art militaire français est dû à d'autres causes.
On a besoin de symboles aussi pour construire un pays.
Mais c'est pour ça que vous parliez du rôle de l'historien. Des historiens comme Michelet, ils ont travaillé pour l'histoire de la République, pour essayer d'unir un petit peu tous les petits Français derrière des grands mythes comme Jeanne d'Arc, dont tout le monde sait bien aujourd'hui qu'elle n'était pas une petite bergère pauvre, ou le chevalier d'Assas qui tombe le premier.
Est-ce que la Corse a besoin aussi de mythes pour se construire?
Tous les peuples ont besoin de mythes. Si c'est pas historique, c'est autre chose. C'est dans les religions. Mais après, il y a l'idée qu'on se fait du mythe. C'est-à-dire que beaucoup de gens pensent que les nationalistes idéalisent trop Pascal Paoli. Bon, ce qui est, je pense, honnêtement, inexact. Parce que je pense que tout le monde sait que, comme tout le monde, Paoli avait sa part d'ombre et de lumière. Mais quand on parle du personnage, c'est le personnage homme d'État, homme politique éclairé, qui en avance sur bien d'autres dans son époque, et s'inspirant de concepts philosophiques tout à fait nouveaux. Qu'il ait été peut-être très, très dur en justice, par exemple, et qu'on lui reproche parfois. Ensuite, l'évolution d'une société, elle ne se fait pas, évidemment, en douceur. Donc lui, et le mythe de Paoli, c'est vrai que c'est un mythe fondateur. Mais là, c'est pas vraiment un mythe qui est faux, hein. Parce que c'est quand même un grand personnage. Donc, après, c'est vrai qu'on peut trouver des petits personnages qu'on essaye de monter en épingle pour dire, voilà... Mais ça, c'est plutôt, on va dire, des
petites histoires, ça.
Petite histoire qu'il ne faut pas négliger, d'ailleurs, parce qu'elle est...
Oui, elle explique.
Elle concourt à la grande.
À la grande. Jean-Raphaël Chervogny, nous arrivons au terme de notre entretien. Je vais quand même rappeler, parce que c'est un joli livre d'art, et c'est dans cette collection qu'a voulu proposer les éditions Clémentine votre ouvrage, Chronique de la Corse ancienne, Jean-Raphaël Chervogny. Peut-être il y aura un tome 2, vous le nous disiez, en tout cas ça dépendra du lectorat, hein, s'il y a une demande, je pense que oui. D'autres projets, vous travaillez sur quoi en tant qu'historien en ce moment?
On termine avec ma co-auteure, Alice Coudrin, les murs de Bastia, c'est-à-dire l'histoire de la ville de Bastia, raconté à travers les murs, c'est-à-dire tout ce qu'il y a sur les murs. Quand vous vous promenez dans Bastia, vous avez une profusion de plaques, d'inscriptions, de niches, de statues, de tout, et de façades. Et on passe devant souvent, on se pose la question de savoir.
Ah, très souvent.
Et donc, on a fait le tour, on a dit, tiens, alors, abondamment
illustré photo. Et encore une ville à découvrir pour les Bastiais.
Ah oui,
ça, c'est
toujours. Mais même
il y a une méconnaissance, c'est dommage. C'est pas une critique je fais aux Bastiais, mais on a une ville tellement belle.
Et tellement riche.
On ignore un petit peu son patrimoine, genre. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits.
Mais c'est vrai que c'est le propre d'une ville riche, c'est qu'on n'a jamais fait le tour. Une personne qui est riche, elle ne sait pas combien elle a de milliards. Parce que là, c'est ça. Il y a des milliards d'informations à retrouver.
En un mot, Jean-Raphaël, si vous deviez aller nous donner envie d'ouvrir, de feuilleter ce livre, moi j'en ai parlé de manière tout à fait honnête et sincère. En plus, c'est un livre, on n'est pas obligé de commencer par la première page. Ouais. On peut vraiment, hein, on l'a dit, qu'est-ce que vous aimeriez aussi? Vous laisser une trace pour expliquer aux gens, pas une trace au sens, on se souviendra de moi, mais on se souviendra au moins des histoires et des légendes, des chroniques qui ont marqué et qui font notre histoire.
Oui, et puis, quand on discute avec les gens tous les jours, on s'aperçoit que quand on sait quelque chose et qu'on leur raconte, je l'espère assez bien, tout de suite, ils sont intéressés et ils en redemandent. Parce que bon, les hommes et les femmes sont comme ça, qu'ils aiment bien qu'on leur raconte des histoires, même dans leur
vie. Et puis il faut toujours leur expliquer aux uns et aux autres qu'on a tous une histoire.
Et voilà, de toute
c'est
façon,
important, ça aussi.
Chacun a son histoire. Et chacun peut être retrouvé. Alors, bon, les deux ou trois témoignages directs des gens qui ont ouvert le livre et qui sont tombés avec ravissement sur une chronique qui parlait de leur village. Bon, ils ont été tout de suite. Alors que, bon, on ne parle qu'une fois, évidemment, on ne peut pas. Mais donc, ça prouve bien que. Il y a une histoire pour tout le monde et que l'histoire, elle est pour tout le monde.
Voilà,
et l'histoire avec un grand H.
Elle est toujours à écrire. Jean-Raphaël Tchiavoni, un grand merci.
Un grand merci à vous,
Jean-Charles. Bon courage pour vos travaux à venir. On suivra avec attention, donc, on écoutera les murs parler.
Voilà.
De Bastia. C'est prévu pour quand vous avez une idée?
J'espère,
2016.
Oui,
courant 2016, d'accord. Bon, on aura l'occasion d'en reparler sur notre antenne. Merci également à nos amis auditeurs et auditrices qui ont bien eu la gentillesse de nous écouter ou le plaisir d'écouter, notamment Jean-Raphaël Tchiavoni. Moi, Gouspès, ou Avinel, l'émission, la Troatie, ou l'Antraorte, ben, une émission de Sobralogue, ma, on s'y amis Kando, Jean-Raphaël, merci.
Merci.
Fala, Lussole, Nantua Marina, e piano piano, bena budia, si santo nomo chi cammina, e prime case le tocca igia. O bu cambiati soli contorni, ragazze lor tu giusto rinzu, dove finisce coi tuoi orni, chi la giurava d'un parte mai più. Lì incorre la sosi dell'ina, dolci momenti a correre a e i capelli a sua angiolina e poi i soci per su mia ritrova senso la sua vita luzzo scalone ferma culla re tu ultima sfida e culla zoppa di qui ben agua cerca e chiave di luburtone alla pasponi face gira e in du silenzio lo so mertione con morimbecco ben atrisina. So tanti mesi, tante stagioni, dei spaesati da marina, o tiene cerca la ragione, ti ha portato a sua vita qualla. Tanti colori e frutti persi, che oggi ti onto a ritrova, lasciando qualche sogno appesi, i difrastorni di qualche città. E di angiolina trova in struo, ave la dolcena di uaci di fuoco. Stanotte per lo pellegrino, un sonno forse non venerà, fuori a scopre un cammino, chi la vicina ti ha felicità.
Domani carina tua marina, un sole non sa d'avvisare, e tanto ti dà un'urina, un pianterallo mio di lucida, e tandolo ci dia un'urina, un pianterallo.